La grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de rencontres, de culture et de débats d'idées. Mao Drama nous rejoindra pour imaginer un monde meilleur tout à l'heure. La nouvelle tête d'Alix Van P, ben ce sera une jeune actrice qui impressionne dans le nouveau film de Xavier Jeannoli. Elle s'appelle Nastia Goulet. Non. Ça arrive. On le dira bien tout à l'heure. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Depuis que l'Iran a été frappé samedi par Israël et les États-Unis, vous pouvez suivre la guerre en direct sur les réseaux sociaux et les chaînes d'infos. Pour une meilleure lisibilité des faits, une meilleure compréhension ou toujours plus de confusion, la guerre en temps réel est-elle un piège? On en discutera tout à l'heure. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Adriana Carambeu, des jambes d'1m26, un sourire qui a pulvérisé les années 90. Depuis, elle a passé 30 ans de sa vie sous les projecteurs, défilés, shooting de mode et plateau télé où elle fut tour à tour animatrice et invitée. Pourtant, Adriana Carambeu fut une petite fille prête à tout pour disparaître. Alors, comment la cape d'invisibilité d'une enfant mal aimée s'est-elle transformée en super pouvoir de la séduction par l'image, donc par le regard? C'est ce qui nous occupe ce matin. En attendant, Adriana Carambeu a aujourd'hui 54 ans, c'est ça ?
C'est ça,
54 ans. Elle est amoureuse et tellement heureuse d'être amoureuse qu'elle voudrait que nous soyons tous heureux et tous heureux d'être amoureux. Portrait numéro 101. Bonjour Adriana Carambeu.
Bonjour, c'était très joli ce que vous avez dit
et
sur
ben
moi.
Voilà. Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout. C'est le titre de ce petit livre qui paraît aux éditions Le Duc. La vie est une histoire d'amour. Vous menez une sorte d'enquête, vous allez interroger des cliniciens, des psychologues, des spécialistes du cerveau, des philosophes. Et surtout, surtout, vous mélangez votre propre histoire à d'autres témoignages sur ce que l'amour peut détruire en chacun de nous, ce qu'il peut guérir et ce qu'il peut réparer. Alors, on va remonter l'histoire de le fil de votre histoire à vous, Adriana. Vous êtes née de l'autre côté du rideau de fer, en Tchécoslovaquie, un pays qui n'existe plus, puisque c'était le titre de votre autobiographie. Votre mère est très jeune, si jeune quand elle devient maman, qu'en réalité, elle n'a pas terminé ses études de médecine et que vous allez être placée chez vos grands-parents. C'est eux qui vont s'occuper de vous quand vous êtes petite. Et c'est pas un arrachement. En réalité, c'est pas ça la première blessure d'amour de votre vie à vous. C'est même plutôt un beau souvenir.
C'est grâce à ce souvenir, je pense que j'existe, en fait. Parce que c'est cette forme de l'amour fondateur qui m'a donné des bonnes bases.
Ouais.
Même si on peut dire qu'après, c'était pas tout beau pour moi. Heureusement que j'ai eu ça.
Ouais, l'amour de ses grands-parents.
L'amour de mes grands-parents, ou quand on parle de l'amour fondateur, c'est l'amour qu'on ne choisit pas.
Ouais.
On est né dedans et c'est comme un décor d'une maison. On s'habitue. Mais heureusement que celui-là est venu en premier.
C'est ça, comme un socle, comme quelque chose de fondateur.
Exact, parce que je pourrais me rendre compte qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça fait d'être aimé et d'aimer.
Oui. Et puis, vous allez revenir chez vos parents et vous allez avoir une petite sœur. Et vous allez avoir un père qui, en réalité, ne sait pas vous aimer, ne sait pas vous donner de l'amour et, en revanche, préfère sa deuxième fille. Et ça, c'est une douleur terrible quand on est enfant.
Parce que quand on est enfant, on n'a pas des armes. On ne sait pas se défendre déjà, et on ne comprend pas. Je me souviens que j'étais dans ma chambre et la nuit, j'ai ruminé sur le fait qu'est-ce que j'aurais pu mal faire pour l'énerver à ce point. Pourtant, j'étais bonne à l'école, j'étais gentille, vous me posez dans un coin, vous me récupérez deux semaines plus tard, j'ai jamais sali mes vêtements. Et j'ai toujours cherché qu'est-ce qui n'allait pas. J'étais petite, hein, j'avais 6 ans.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque.
Ouais.
Et que ça m'a profondément
marqué.
Blessée, oui.
Blessée. Et vous vous faites oublier, c'est ça que vous racontez. Vous cherchez à devenir invisible.
Parce que c'était la seule arme que je pouvais éventuellement développer. Et j'ai observé et je me suis tout simplement adaptée à cette situation, car quand on est invisible, rien nous arrive, finalement. Mmh. Mmh. Donc c'était une espèce de couverture.
C'est ça. J'ai lu que vous avez, peut-être à cet âge-là, c'est vous qui allez nous le dire, connu une période d'anorexie. C'est-à-dire, vous n'arriviez plus à manger. Est-ce que c'est à cet âge-là? C'est à cette période-là?
Mais c'était pas vraiment une anorexie. J'avais vraiment du mal à avaler une nourriture. Ça n'a pas duré longtemps. Ma mère m'a amenée chez le médecin. Il a regardé s'il n'y a pas une obstruction, quelque chose d'étrange. Et il a dit, ne vous inquiétez pas.
C'était un blocage.
Aucun enfant meurt parce qu'il a faim. Je pense que c'est faux. Mais, mais c'était un blocage psychologique, car c'est à ce moment-là que j'étais enlevée de mes grands-parents. Ouais. Et d'un coup, je me retrouve dans une nouvelle maison avec des nouveaux parents. D'un coup, du jour au lendemain. Et ça, je n'arrivais pas à gérer.
Ouais. Et vous le racontez dans ce livre, les étapes douloureuses de cette enfance. Vous racontez que votre père vous a dit très très jeune, tu devrais travailler et payer un loyer. Ce qui signifie que vous êtes une charge pour lui.
Oui, c'est ça, j'étais un obstacle, j'étais quelque chose à la maison qu'on ne souhaitait pas, qui n'était pas là pour aimer. Mais en même temps, j'ai senti cette contradiction, car mes grands-parents m'ont adoré, moi pareil, et j'avais du mal à comprendre. Et plus tard, avec ma sœur, je vois que mon père est capable d'aimer
quelqu'un. Et pas vous.
Mais ce n'était pas moi.
Ouais.
C'est dur pour un enfant.
C'est très dur. C'est quand très, très dur.
Quand on vit un refus à l'âge adulte, ok, soit.
Ouais.
On ne peut pas plaire, il ne m'aime pas, ce n'est pas grave.
Et quand vous dites que vous étiez bonne élève, vous étiez excellente élève.
Ouais, franchement, difficilement, je pourrais faire mieux.
non, mais c'est vrai.
Pour lui plaire, pour le satisfaire, pour qu'enfin il peut me dire bah, « Voilà ma fille, je suis fière de toi » ou « Tu as bien fait » ou « Viens, je te fais un câlin, un truc ».
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, et alors, vous choisissez médecine. Parce que je ne savais pas du tout, moi, que vous étiez une ancienne étudiante en médecine. Moi, je me souviens quand vous présentiez sur France 2 avec Michel Simès les pouvoirs extraordinaires du corps humain, tout ça. Lui, il est médecin, je ne savais pas du tout que vous étiez une ancienne étudiante en médecine.
Oui, moi, je fais 3 ans de médecine et j'étais choisie pour cette émission grâce à ça.
Oui, c'est ça, c'était vos souvenirs d'anatomie, le cours d'anatomie en Tchécoslovaquie.
Très bonne souvenir.
À Prague.
Ah non, mais j'étais vraiment bonne élève.
À Prague.
Ouais. Et du coup, pour cette émission, ça, c'était génial. Car je comprenais tout et à chaque fois qu'on a tourné, c'était une prise avec des spécialistes vraiment pointus de la médecine et de la science. Donc franchement, ça tombait bien que j'avais cette formation.
Mais la médecine, c'est votre maman.
Ma mère était médecin.
Qui était médecin. Et donc, si vous choisissez médecine, c'est que vraiment vous choisissez votre mère face à votre père. Vous choisissez sa voie à elle, vous choisissez son métier à elle.
Exactement, mais j'ai idolâtré ma mère.
Ah oui.
Elle est toujours tellement belle, tellement gentille, tellement humaine, tellement empathique, douée. Et puis, j'ai baigné dans ses livres, donc j'ai traîné dans ses jupes tout le temps.
Alors, vous avez baigné dans ses livres. Il y a une petite histoire sur les livres de médecine, sur les manuels de médecine de votre mère en Tchécoslovaquie, dans lequel vous aviez retrouvé des petits mots d'un amoureux, c'est ça?
Et c'est vraiment mon premier contact avec cette tendresse, avec cette expérience amoureuse, parce que j'étais encore vraiment enfant. Et je lis ça sur les marges de livres d'anatomie ou physiologie, j'en sais rien.
De votre mère.
Et c'est de ma mère. Et c'était écrit dans la langue tchèque, mais un peu maladroitement, parce que la personne était étrangère. Et je trouvais ça hyper mignon.
Ouais.
Et j'ai adoré. Il écrivait des petites jolies phrases, presque poèmes, trop mignons. Je tombe sur ce truc, c'était très joli.
C'était très joli. Vous vous souvenez de cette campagne Wonderbra?
Oh, oui.
New Wonderbra Pure, great shape, no padding.
Any other questions?
Any other questions? C'est vous en train d'enlever un soutien-gorge. Donc, vous avez été repérée très jeune et en fait, vous avez quitté la Tchécoslovaquie très jeune pour
Très jeune, pas si jeune que ça, parce que j'étais dans la troisième année de la médecine, et j'étais découverte dans la rue, et j'avais déjà 20 ans. Donc c'est pas si jeune.
C'est pas si jeune pour une carrière de mannequin. Non. Oui, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont découvertes à 13, 16, 14 ans. Oui, 16 ans, oui, c'est vrai. Mm. Oui, c'est vrai.
Donc je me dis Dieu merci, parce que je pense que c'était un bon âge. Trop tôt, c'est pas bien non plus. Je sais pas comment j'allais gérer. J'avais quand même une certaine maturité, une éducation, des valeurs, un petit vécu pour prendre mes propres décisions.
Mm. Est-ce que c'est facile la première fois qu'il faut montrer son corps, qu'il faut laisser des inconnus vous regarder, vous examiner, vous peser, vous mesurer? Est-ce que c'est une évidence quand on a été une petite fille qui voulait se faire oublier, qui voulait disparaître?
Ah ben c'est assez rigolo, parce que c'est vrai, j'étais en plus mais maladivement timide, effacée, et que je me suis jamais trouvée jolie. Et là, d'un coup, comme vous dites, on se redresse. Je me suis redressée, et j'ai adoré mes chaque seconde, parce que j'ai entendu « t'es jolie, tes cheveux sont beaux, tu marches joliment ». Et tous ces compliments, moi, j'ai jamais entendu. Ça m'a fait du bien. J'ai évidemment compris que c'est des compliments superficiels, mais ça m'a fait ma thérapie.
Ah, c'est incroyable, ça.
Me suis nourrie de ça.
Nourrie de ça. Là, on vous entend à la télé.
Et maintenant, voici Adriana Carambeu. Wow. Vous connaissez Adriana, Eddy?
Non, mais je suis ravi.
Ah oui, ça je comprends, oui. Ça va, Adriana?
Voilà, ça va, Adriana? Oui, ça va très bien. Vous êtes absolument radieuse. Vous avez des boucles blondes qui descendent jusqu'au milieu du dos. Là, vous êtes face à moi avec les cheveux très courts. C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau. C'était ma signature, les cheveux, la crinière. C'était longtemps ma signature, oui.
Ah! Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là, à 54 ans? Terminer la signature, qu'est-ce qui se passe?
Non, parce qu'il est vrai que pendant le mannequinat, ça faisait partie de mon potentiel commercial, les cheveux. J'ai entendu dire que la crinière représente à peu près 20% de look total. Mais là, j'ai 54 ans, je pense que je mérite cette petite liberté de choisir la coupe qui me plaît. Et vraiment, c'est venu juste comme ça, sans aucune préméditation, mais je kiffe beaucoup.
Très bien, vous avez raison de kiffer, parce que vous êtes magnifique. Vous avez défilé pour les plus grands, à commencer par Thierry Mugler. Il y a des images qui ont fait le tour du monde. Il y a eu évidemment cette campagne pour les soutiens-gorge push-up Wonderbra. Sur l'affiche, hein, le claim, le slogan, c'était « I can't cook, who cares ?» Je ne sais pas cuisiner, qui s'en soucie? Ce qui était quand même d'un sexisme à l'époque, dingue.
Mais moi, je pense que non, justement. Moi, j'ai signé cette campagne parce que c'était pour une première fois une femme qui parle de ses atouts, ça veut dire sa poitrine, sans aucune gêne. Bien évidemment qu'une poitrine, c'est sexy. La poitrine, les femmes l'ont pour nourrir son enfant, mais c'est aussi un atout sensuel.
Ouais.
Et je ne vois pas pour quelle raison on devrait se cacher.
C'est vrai, mais est-ce qu'on était obligé de dire « je ne sais pas cuisiner »
Mais parce qu'il y a l'humour dedans.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, c'est vrai,
j'ai vraiment kiffé ce pub, justement par rapport à ça. Quel était deuxième degré?
Alors, je reviens à cette histoire d'amour, de mauvais amour, de bon amour, enfin, tout ce que vous tricotez dans ce livre et toute cette réflexion que vous menez. Est-ce que là, il n'y a pas un piège immense quand on se met à rencontrer un succès aussi foudroyant, une notoriété mondiale? Est-ce que quand on a été mal aimé, pas aimé par son propre père, est-ce qu'on se trompe sur ce que c'est que de recevoir de l'amour? Et quand on reçoit de l'argent, quand on reçoit des applaudissements, quand on a des assistants partout qui exécutent votre moindre désir, quand les gens qui sont attirés par le succès se mettent à vous tourner autour comme des papillons, est-ce qu'on prend ça pour de l'amour quand ça n'en est pas?
Je ne me suis jamais trompée sur ça, je pense. Parce que, à travers de mes expériences négatives et positives amoureuses,
Je vous parle pas d'amour avec les hommes. Je vous parle de prendre le succès, l'argent, le tourbillon qui va avec pour de l'amour, de devenir...
Non, mais il faut de pas prendre la grosse tête. Mm. Ah non, mais ça, non, un jour, je rentre chez ma mère, et, mais il y a longtemps, hein, il y a 20 ans, et j'étais un peu, comme vous dites, un peu trop contente, un peu trop sûre de moi, j'imagine. Et ma mère m'a tout de suite dit, oh ma chérie, tu peux redescendre sur terre. Et là, j'ai eu tellement la honte que je me suis dit, ok, elle a raison, plus jamais. Franchement, je n'ai pas la grosse tête, c'est sûr.
Avec mais les hommes, en revanche, vous vous êtes trompée. Et vous le racontez avec beaucoup de sincérité.
Et encore, tromper, c'est un grand mot. Je pense qu'à chaque moment de notre vie, il nous faut un amour qui est différent. Par exemple, celle-là que j'ai pris à 20 ans ou à 30 ans, aujourd'hui, il ne me conviendrait pas. Mais à ce moment-là, c'était peut-être nécessaire.
Parce que vous racontez une histoire que vous avez traversée en disant « Toute ma jeunesse, j'ai pensé que chercher un homme, c'était chercher un homme fort. C'était chercher quelqu'un qui avait de la puissance, qui avait de la force. Et je ne me suis pas rendu compte que j'ai été me glisser dans une histoire où la force est devenue de l'emprise, du contrôle. »
Exactement, mais à l'époque...
C'est ce que vous vouliez.
C'est ce que je voulais. Et pendant longtemps, je voulais. Pendant longtemps, je cherchais des hommes qui sont très forts caractère.
Qui vous dominent.
Un peu macho, très dominateur. Car c'était, il faut le dire, beaucoup plus facile pour moi. J'étais quelqu'un encore de très timide, mais enfin, c'est pas sûr de moi, surtout. Et que quelqu'un prend le relais, qui fait tout pour vous. Et au début, évidemment, par amour. Et au début, c'était vraiment sincère. Et bon, et beau. J'ai adoré. Attention, c'est juste de se rendre compte quand est-ce que ça vire, quand est-ce que ça vrille,
quand est-ce que ça devient une persécution.
On commence de se perdre dans cette relation, quand est-ce qu'on n'existe plus, quand est-ce qu'on décide vraiment pour toute votre vie. Et c'est là où c'est là que j'ai pas capté
au
bon moment.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et j'ai beaucoup appris.
Il y a quelqu'un que vous nommez pas dans ce livre.
Ah non, vraiment?
Emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas.
On dit son nom, on dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on fait, Adriana Carambeu?
Mais moi non plus, je sais pas trop finalement. Non, mais
c'est vous qui choisissez, c'est votre vie.
En fait, dans ce livre, je décris cet amour qui m'arrive, évidemment, parce qu'elle est magnifique. Je le décris. On n'a pas besoin de savoir et de coller le nom ou le prénom sur cet amour. Mais ce que je vis est important et c'est pour ça que je le décris. Parce que c'est un amour qui apaise, qui me rend là où j'ai toujours rêvé d'être. Ça veut dire d'être en paix. Mmh. Et c'est le plus beau.
Donc c'est quand même très très formidable d'avoir passé la barre des 50 ans, non?
Moi je pense, mais après j'ai vraiment rien. Et j'ai entendu les femmes, après 50 ans, de parler de ce sujet quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, ah, c'est pas possible.
Elle mente. On nous l'a fait à l'envers.
C'est pas ça. Et ben c'est ça parce que je pense que avec la maturité, on a toujours notre beauté, je trouve.
Il y a surtout cette, vous.
Il y a cette maturité, il y a ce vécu, il y a cette paix intérieure et surtout, je pense qu'on gagne en confiance en soi. Et je parle beaucoup dans ce livre aussi en amour de soi. Parce que si on n'a pas cela, j'espère que ça ne semble pas trop comme un cliché, parce qu'on le dit souvent, mais c'est vraiment ça. Il faut commencer par soi-même, sinon l'amour dans lequel on rentre ne va jamais être aussi vrai et aussi sincère.
Mais ce garçon qu'on vient d'entendre chanter, dont on ne dit pas le nom, il y a quand même, en fait, il s'appelle Marc Lavoine. Il y a 20 ans, vous l'aviez repéré dans un événement caritatif ou sur un plateau télé.
Je pense que c'était 27 ans.
Il y a 27 ans ?
Oui.
Ouais. Et il y a 27 ans, il y avait quand même en une micro-fraction de seconde quelque chose qui vous avait traversé l'esprit en se disant « Ce mec-là, il est pour moi. »
Ouais, ce mec, il est pour moi. Je me suis dit ça, mais vite fait. Et puis, je me suis dit « Non, faut arrêter. » Et ça ne m'a jamais quitté, en fait. Mais tellement platonique, tellement j'aurais jamais imaginé. Rien, mais rien du tout.
Il y a 27 ans.
Il y a 27 ans.
C'est quand même comment
Je suis très patiente.
C'est absolument incroyable. Et puis ensuite, vous vous retrouvez dans un talk show, une espèce d'émission du samedi soir. Et d'ailleurs, vous avez une phrase assez marrante, assez intéressante dans le livre. Vous dites, c'est le genre de talk show, le genre de plateau télé où si on n'est pas soi-même, on est mort.
Oui, c'est ça, parce que c'est une émission où on raconte vraiment, c'est un peu ça, on se livre. Et on n'est jamais, moi j'ai jamais pratiqué ça, mais il faut être sincère si on veut passer un message ou si on veut que les gens nous captent un peu mieux. Et donc c'était tout sincère, cette interview. Et donc voilà, je l'ai dit.
Et là, vous l'avez tout. Balancé. Là, vous l'avez balancé.
Balancé parce que c'était... Ah, mais je sais vraiment pas. Franchement, c'est ce que je dis, j'en reviens pas, toujours. Comment est-ce possible? C'est que ça tient ça. Imaginez si j'aurais pas fait. Ce serait encore
pire. Non, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement sincère et authentique qui est sorti. C'est voilà, Marc Lavoine, j'adore ce mec. Voilà,
non, j'ai pas dit ça.
Non, vous avez pas dit ça, vous avez dit quoi?
Je dis, je suis amoureuse de ce mec.
Ah, carrément,
c'est pire. Ah non, mais c'est pire.
Mais oui.
C'est la totale.
Après. C'est la totale. Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout. C'est donc ce livre qui paraît aux éditions Le Duc. Et c'est donc une collection d'histoires, dont la vôtre, Adriana Carambeu. Vous êtes accompagnée par des cliniciens, par des thérapeutes, par des philosophes. Il y a des grands noms qui vous accompagnent dans ce parcours.
Frédéric Lenoir, Christophe André. Voilà. Et puis aussi témoignages de d'autres personnes.
Absolument.
Parce que c'est bien d'entendre aussi d'autres personnes de s'exprimer par rapport à l'amour et de se aussi retrouver dans cette histoire qui sont différentes et se dire parfois, ouf, je suis pas seule.
Ouf. Merci Adriana Carambeu.
Merci.
Vous n'êtes pas seule.
Non, et nous non plus. Seule.
Merci d'être venue sur France Inter.
Merci beaucoup.
C'était France Gall, comment lui dire? C'était France Gall en 1976 et c'était une chanson écrite et composée par Michel Berger. Vous êtes dans le mag de la grande matinale sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 10h à 9h45. Mao Drama, bonjour Mao.
Bonjour Sonia.
Alors aujourd'hui?
Aujourd'hui on va parler du sans-abrisme car j'ai découvert quoi que laisser quelqu'un à la rue, ça coûte deux fois plus cher que de l'insérer.
Allons bon. Alix Van Pay, bonjour.
Bonjour.
Voilà, j'ai un peu écorché le nom de votre invité tout à l'heure et je m'en suis beaucoup voulu. Alors, racontez-nous.
Eh bien, ma nouvelle tête du jour, c'est une jeune actrice magnétique, mystérieuse, Nastia Golubeva.
Voilà.
Elle joue dans Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli qui va sortir le 18 mars et je peux vous assurer qu'on va entendre parler d'elle ces prochaines années.
Il est 9h31 sur France Inter, c'est le débat du jour.
Donald Trump a donc pris la parole ce matin pour annoncer avoir engagé avec Israël des frappes de grande ampleur visant le régime iranien.
Ces images en direct de Jérusalem où de nouvelles explosions ont été entendues.
Des frappes qui ont touché des cibles militaires, des hauts dignitaires du régime.
On va partir et retrouver notre correspondant au Liban.
Dès samedi, toutes les chaînes d'infos sont passées en spécial pour couvrir les frappes sur l'Iran et le Moyen-Orient qui s'enflamment aussitôt. Carton d'audience, images du conflit en direct, évolution heure par heure, décryptage à chaud. Peut-on comprendre la guerre en temps réel? C'est la question que je pose ce matin. Ou bien est-ce un leurre? Pire, un piège quand on tombe dans la surenchère de réactions à vif, voire dans la propagation de rumeurs.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en discuter ce matin avec David Pujadas. Bonjour David.
Bonjour Sonia.
Journaliste sur LCI, producteur de l'émission Le 24h Pujadas. Et face à vous, Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et vous êtes iranien.
Franco-iranien.
Franco-iranien, je le dis, puisqu'on va essentiellement parler de la couverture de ce conflit que forcément les Iraniens et les Franco-iraniens regarde avec un œil tout particulier. David Pujadas, est-ce que vous diriez que la guerre sous toutes ses formes, c'est un sujet de télévision par excellence, ou en tout cas, est-ce que ça l'est devenu un sujet de choix pour un 20h ou pour une grande émission comme la vôtre?
Alors Dieu merci, ça n'est pas que ça. La guerre, c'est d'abord un drame, un terrible drame, surtout pour ceux qui la vivent. C'est des enjeux géopolitiques, mais du point de vue du journalisme et du journalisme télévisuel, c'est un sujet très important, d'abord parce que ça captive les gens, et ensuite parce que, alors, pour ce qui concerne la couverture en direct, puisque c'est votre sujet, si j'ai bien compris, même si moi je ne fais plus ça aujourd'hui, mais je l'ai pas mal vécu, c'est évidemment un facteur de tension. Et tout ce qui est la tension, les médias parfois en usent et en abusent d'ailleurs, évidemment que ça nourrit les programmes de direct, bien sûr, de façon particulière.
Mais est-ce que c'est une évidence, et je vous pose la question à tous les deux, en 2027, dans 2026, quand une guerre commence, on veut la voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question? Il y a ce réflexe de l'image, c'est une évidence pour le public, on veut la voir. La guerre, elle se fait en image. David Pujadas, Armin Arif.
Alors souvent, d'abord, on la voit peu. Bien souvent,
vous
l'avez remarqué, les chaînes d'infos continuent et ça remonte peut-être à ce qui a été l'acte fondateur de la couverture de la guerre en direct, c'est-à-dire à la première guerre du Golfe. Bien souvent, vous avez quelques images sur lesquelles vous allez donner les informations. Donc, on veut la voir, mais
donc
on la voit.
Donc, quelques images qui se répètent.
Elles tournent en boucle. Donc, souvent, on la voit très peu. Mais il faut toujours se mettre à la place des consommateurs d'informations. Bien sûr qu'on a envie de savoir d'abord, et de voir ensuite si possible. Donc, quand vous êtes en charge d'un programme d'information, vous essayez de donner le maximum d'éléments.
Armin Arefi, vous diriez, comme David Pujadas, aujourd'hui c'est une évidence, on veut savoir, mais on veut voir. Voir, on veut voir d'abord et savoir ensuite.
Je pense que ça a été le cas depuis toujours, en tout cas, si je me souviens bien, depuis la première guerre du Golfe en 1991. Aujourd'hui, en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, on a tous notre nez rivé sur notre téléphone portable. On a envie de voir des images, on a envie de voir des images d'explosions, de bombardements. Donc, il est logique que les chaînes d'info continuent,
Qu'on nous les montre.
Il est logique que les chaînes d'info continuent, fassent toute leur couverture là-dessus, parce qu'on a envie de voir tout ça. Maintenant, moi, en tant que journaliste, alors il est difficile de critiquer ses confrères et moi, en tant que Français et Iranien, je me félicite que cette guerre, qui est quand même historique, et ces événements sont historiques, quoique très dramatique soit couvert par les médias. Maintenant, il y a à côté de cela quelques pièges. Moi, j'ai quand même le sentiment que depuis samedi dernier et les premiers bombardements qui ont eu la peau de l'ayatollah Ali Khamenei, on est beaucoup plus sur l'instant présent, l'instant précis de la guerre. Les attaques, les ripostes, le bombardement, un schéma assez classique. D'ailleurs, on se souvient qu'on avait déjà vu lors du conflit à Gaza post-massacre du 7 octobre et qu'on est moins dans les causes de fond, les raisons qui ont poussé aujourd'hui Israël et les États-Unis à lancer une guerre contre l'Iran, d'ailleurs en violation du droit international, même si dire ça, ça ne veut pas dire soutenir bien sûr le régime islamique. Et donc, on, d'une certaine manière, cette immédiateté, ce besoin d'immédiateté d'image va servir quand même à un certain narratif, et notamment celui...
Vous diriez ça ?
Comment ?
Ouais, vous diriez ça ?
Bah, clairement, en tout cas moi j'ai fait plusieurs plateaux
C'est-à-dire le narratif de ceux qui frappent, de ceux qui attaquent, bah, le narratif en fait, de Donald Trump, le narratif de Benjamin Netanyahou en Israël.
Il faut dire que la République islamique d'Iran, quand même, au niveau médiatique et politique en France, fait l'unanimité contre elle. C'est une réalité. Peu de gens vont ouvertement soutenir le régime des mollahs, surtout après ce qu'il a fait il y a 2 mois, un massacre à huis clos de 7 000 à 35 000 personnes en Iran en à peine 2 jours. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau journalistique, je pense, c'est d'essayer de savoir pourquoi cette guerre a eu lieu. Quelles sont les menaces qui étaient présentées par Benjamin Netanyahou et Donald Trump? Est-ce que le régime était sur le point de se doter de la bombe atomique? Est-ce que c'est pour le peuple iranien, comme c'est annoncé par Benjamin Netanyahou, que les Américains sont en train de bombarder l'Iran? Et le problème, c'est que si on n'a pas répondu à ces questions et qu'on se contente d'analyser les bombardements, les représailles dans le Golfe, les bombardements en Iran, les représailles contre les civils, on tombe dans une autre chose qui est tout aussi intéressante, il faut le faire, mais on passe un peu à côté de ce qui est en train de se jouer au niveau géopolitique et qui est considérable actuellement en Iran et dans la région.
David Pujadas, vous diriez que le risque de la guerre minute par minute, quart d'heure, heure par heure, c'est le risque d'épouser le narratif de ceux qui, là en l'occurrence américains-israéliens, de ceux qui attaquent, plutôt que de prendre le recul et de les remettre à leur...
Je ne sais pas, j'exprimerai des nuances avec Armin. Quand vous traitez hier, par exemple, de ce sous-marin américain qui a torpillé le vaisseau iranien au large du Sri Lanka. Quand vous le traitez, je ne sais pas de qui vous faites le narratif, parce que bien sûr que le côté opérationnel, militaire, la raison opérationnelle, le motif opérationnel n'apparaît pas. Donc vous pouvez avoir le sentiment d'un acte aussi, alors évidemment, sans doute d'un point de vue légal très discutable, mais même d'un point de vue humain, comment dire, un peu cruel, quand vous pensez qu'il y a 180 personnes d'équipage. Donc c'est un peu plus ambivalent, je dirais, c'est-à-dire que c'est pareil avec l'affaire de cette école de fillettes dans le sud de l'Iran qui a été bombardée dans les premières heures, on y est revenu longuement hier. Donc c'est à double tranchant, l'agresseur, l'agressé...
Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous précisiez tous les deux, c'est que les journalistes français ne sont pas en Iran. Vous ne pouvez pas, LCI ne peut pas envoyer de journalistes, le point non plus, en Iran, sur le sol iranien. Vous avez les dépêches des agences de presse. C'est ce qui est une particularité.
Alors, tout a changé de ce point de vue-là, parce que les dépêches des agences de presse, effectivement, ça nous ramène à la première guerre du Golfe en 91. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'il y a les réseaux sociaux.
Oui.
Alors, ils sont, Internet est bloqué par le régime, mais vous avez de nombreuses sources d'images et d'informations qui vous parviennent. Et petit à petit, vous arrivez à faire le tri entre les comptes sérieux, les comptes moins sérieux. Au vu de l'expérience, c'est exactement ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine.
Armin Arefi, il n'y a pas d'angle mort, là, en Iran, notamment en dehors des grandes villes.
Oui, il y en a beaucoup. Non, mais je ne dis pas qu'il y a une couverture.
Voilà, notamment
en dehors des... C'est pas tout à fait exact qu'il n'y a pas de journaliste. On a un journaliste français qui s'appelle, enfin, franco-iranien, qui s'appelle Thiavo Jigazi, qui est présent pour correspondant France 24 et de LCI, qui fait quand même un très bon boulot factuel. On a des dépêches, et puis quand même, on a une tonne d'images sur les réseaux sociaux que nous, journalistes, on essaye de vérifier et de publier sur nos réseaux qu'on envoie dans nos chaînes. Donc non, il n'y a pas vraiment d'angle mort.
Avec une surexposition quand même de Téhéran et des grandes villes par rapport aux provinces et aux petites villes.
Pas forcément. On a quand même, par exemple, ce matin, moi, sur mes réseaux, j'ai quand même diffusé des bombardements qui ont eu lieu, donc certes à Téhéran, mais également dans l'ouest du pays. Hier soir, pareil. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point. C'est que on peut quand même être informé de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les bombardements, on a des cibles qui sont annoncées, il y a une guerre les deux parties, mais on a aussi des bilans humains, il y a quand même des ONG fiables. Alors certes, on a les ONG gouvernementales de la République islamique qui parlent aujourd'hui de 1000 morts, 1065 morts civils et militaires, mais on a aussi des ONG indépendantes iraniennes basées aux États-Unis qui parlent quand même d'ores et déjà de 1087 morts civils depuis mardi. C'est quand même important et il faut le dire. Mais pour revenir justement à ce que je vous disais au début, je pense que le temps de la guerre est extrêmement important et d'ailleurs, pour justement enlever certaines... pour amener de la nuance à ce que j'ai dit, je parlais de narratif effectivement, en tout cas pour ce qui est de l'analyse précise technologique de la guerre, où on a quand même des armées aujourd'hui extrêmement modernes qui sont passées maîtres dans l'art de la guerre, la guerre technologique et qui utilisent l'IA, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que côté iranien, les images que l'on a de building à Dubaï qui sont visés par des missiles balistiques permettent justement, enfin provoquent un véritable choc psychologique qui est recherché par les autorités iraniennes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la guerre asymétrique de l'Iran, c'est l'arme du pauvre. Le but, la volonté, c'est de faire mal à l'Occident, aux États-Unis, par notamment les images, afin de forcer les alliés des Américains à faire pression sur les États-Unis et ainsi amener à un cessez-le-feu. Mais pour revenir justement à ce que je disais au début, il y a quand même certaines choses qu'il faut rappeler. Par exemple, est-ce que l'Iran était sur le point de se doter de la bombe? Non, ce n'était pas le cas. Avant la guerre des 12 jours, c'est encore moins le cas au début janvier.
Ça pose la question des experts, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on fait venir sur les plateaux H24. Et là, pour le coup, c'est un vrai rendez-vous d'experts, votre rendez-vous 24 heures Pujadas, David Pujadas. C'est-à-dire, comment on les choisit? Qu'est-ce qu'on leur fait dire face à ces images qui sont parfois parcellaires, parfois incomplètes, et surtout qu'on reçoit en temps réel?
En fait,
c'est-à-dire, comment on produit du discours et de l'analyse sur quelque chose qu'on reçoit en temps réel?
Alors, la guerre est un objet journalistique d'une certaine manière, comme tous les autres, avec ses difficultés, ses défis propres. Mais c'est-à-dire qu'il y a le registre du quoi, donc vous décrivez ce qui se passe, il y a le registre du comment, et il y a le registre du pourquoi. Donc c'est vrai que nous, dans nos émissions, on est beaucoup sur le pourquoi. Les causes et donner une tentative de logique à l'ensemble. Les experts, on les éprouve.
C'est-à-dire se remettre sur le temps long?
Ah bien sûr,
voilà, c'est ça.
Contextualiser, remettre sur le temps long, donner les objectifs des uns et des autres.
Donc c'est un aller-retour en permanence entre le temps réel et le temps
long. Si vous regardez le travail des chaînes infos, peut-être LCI en particulier, qui a cette réputation et qui est justifiée, ce travail de contextualisation, d'expertise, il est devenu une pratique quotidienne. Donc en fait, le breaking news, comme on dit, pour parler en bon français, ça n'est qu'une petite partie désormais du travail des chaînes info.
Sauf que vous, Armin Arefi, vous remarquez quand même que justement dans ce travail de contextualisation, de remettre dans le temps long, d'expertise, d'analyse, etc. que produisent les chaînes d'info, il y a aussi beaucoup d'opinions, beaucoup de partis pris et que ça se télescope avec l'information au sens classique et objectif du terme.
Effectivement, alors c'est là qu'il faut faire la distinction entre les plateaux d'analystes, d'experts qui connaissent la région, même s'il est toujours intéressant à mon sens de savoir qui parle et d'où il parle, parce que je pense que c'est essentiel pour l'honnêteté journalistique vis-à-vis du téléspectateur. Et de l'autre côté, parfois, il y a effectivement de l'opinion qui vient se mêler à ça, dans des cas spécifiques. Alors encore une fois, chacun a la possibilité de parler de l'Iran, mais c'est vrai que parfois
Charlie Hebdo,
on retient...
par exemple, a fait un grand papier sur tous les généraux en réserve, les militaires de réserve, les généraux en retraite qui fleurissent sur les plateaux en se demandant comment ils parlent, par qui ils sont briefés, qui ils sont, etc. Question que le grand public, justement,
se pose. Ça, je pense que c'est essentiel parce que le grand public n'est pas toujours au courant. Maintenant, pour ce qui est justement des partis pris, c'est intéressant parce que encore une fois, chacun peut parler de l'Iran, chacun a le droit de parler de l'Iran, mais encore faut-il que ce soit, à mon sens, documenté, basé sur des faits. Et le problème, le paradoxe, c'est que souvent, sur les réseaux sociaux, les séquences qui font davantage le buzz, ce sont les partis pris qui vont cliver. Or, encore une fois, ce qui est intéressant en termes journalistiques par rapport à l'Iran, c'est pas dire j'aime le régime, j'aime pas le régime va tomber, le régime va pas tomber, ça, on n'en sait rien. C'est de donner tous les éléments de compréhension aux téléspectateurs afin qu'ils se fassent son propre avis sur la réalité,
David,
les réalités factuelles.
Ouais.
Non,
justement,
d'un mot,
sur cette question des plateaux.
Vous sélectionnez, vous choisissez vos experts pour ce qu'ils savent et pour ce en quoi ils sont experts. Il y a des experts militaires. eux vont vous expliquer quelles armes sont utilisées, pourquoi, comment, les stratégies militaires, l'opérationnel militaire. Vous avez des experts géopolitiques. Et là, c'est à vous de veiller à ce qu'il y ait des voix différentes. Quand vous avez Gérard Haro d'un côté, Bruno Tertrais de l'autre, et c'est évidemment pas la même vision du monde géopolitique que vous allez avoir. Donc vous allez tenter d'avoir plusieurs sphères. Vous avez ensuite les experts de l'histoire qui vont là vous contextualiser dans le temps. Bref, à chaque expert sa tâche, mais les toutologues, voilà, méfiance.
Méfiance, méfiance des toutologues, d'accord. Méfiez-vous de la toutologie. Merci à tous les deux, Armin Arefi, on vous lit dans Le Point. David Pujadas, on vous retrouve sur LCI.
Le Point qui fait un numéro spécial sur le livre noir des Mollahs, 47 ans de République islamique aujourd'hui dans les kiosques.
Eh bien, on vous retrouve en kiosque et on vous retrouve sur LCI. Merci à tous les deux. Taïm Impala dans La Grande Matinale. Thought, c'est Tame Impala et c'est Kevin Parker qui nous fait danser sur ce nouvel album avec ce son électro. Allez, il est 9h48, on est un petit peu en retard, mais c'est l'heure de Mao Drama dans le Mac de La Grande Matinale. Mao, le lancement de la tournée des Enfoirés vous a donné envie de faire des recherches un monde meilleur?
Oui, absolument. Un monde meilleur. D'accord. Un monde meilleur, car les auditeurs ne peuvent pas me voir, mais j'adore manger. J'aimerais être Miss France Potelée 2026.
Très bien. Vous avez une rivière de diamants autour du cou.
Absolument,
aussi.
C'est 100% du toc. Car, petite bimbo, mes gros seins gros neurones. Bon, c'est pourquoi je vous informe de cette étude de la Fondation pour le logement. Laisser une personne à la rue coûte deux fois plus cher que de la prendre en charge. Ça m'a... Parce que la prendre en charge, c'est 14 000 euros. La laisser à la rue, c'est 30 000 euros. Il y a quand même une différence de 16 000 euros. 16 000 euros, c'est énorme. C'est 5 classes vertes selon l'éducation nationale. C'est 4 appendicectomies selon la sécurité sociale. Et c'est quand même 3 chroniques France Inter selon Charles Alloncle. Donc, c'est énorme. Le populisme, c'est drôlement bien substitué à la rationalité de base. Je participe au fantasme des Français.
Oui.
Et le pire, c'est que cette étude, elle date de 2016. Et vous savez, on a tous fait la tendance, la traîne 2016 vs 2026. Donc je vous le dis avec tout mon amour, on a tous vieilli, on a tous grossi. Mais vous savez ce qu'a pas pris une ride? Le manque d'empathie. Depuis 2016, le nombre de sans-abri, il a doublé. Alors d'abord, ce que j'ai fait, bien, j'ai hurlé dans un coussin. Ensuite, j'ai brûlé un exemplaire des Échos. Après, j'ai écrit cette chronique avec le sang de mes règles. N'importe quoi, j'ai pas du tout d'exemplaire des Échos chez moi en fait. Je me suis demandé pourquoi. Ben d'abord, notre rapport à la pauvreté. Parce que le sans-abrisme, c'est le premier truc qui politise un enfant. C'est la première fois qu'il a un sentiment d'injustice et qu'il dit à son parent pourquoi on lui donne pas d'argent. Ce à quoi le parent répond: il y a un moment, quand on est rasé comme ça, pas de près, et qu'on ressemble à chaque couille, faut pas s'étonner de rater ses entretiens d'embauche. En fait, je suis désolée, mais quand je parle le riche, je deviens la duchesse de Montmirail. On a un rapport malsain à la misère, du coup il faut qu'elle sorte de notre champ de vision. Et c'est pour ça que jusqu'en 1994, le vagabondage c'était un délit. Le vagabondage est défini comme le fait de ne pas avoir de domicile fixe, de ressources claires ou de profession identifiée. Et je sais ce que vous vous dites, comment faisaient les DJ non résidents? L'absurdité, c'est qu'on envoyait des gens en prison parce qu'ils étaient trop pauvres pour se payer un toit. On criminalise des gestes de survie. On met des picots, si tu veux, sur des surfaces planes pour que les gens puissent pas dormir. T'as ce truc de... En plus, il y a des gens dont c'est le job de créer du mobilier urbain anti-humain. À quoi ressemblent les discussions à la machine à café? Ils sont là genre, Mathieu, esthétiquement, ton banc, il est top. Par contre, tu feras attention, on peut encore un peu s'asseoir là sur le coin. Prendre en charge, c'est moins cher, mais le bon sens, il est remplacé par le populisme. Ce débat, on le retrouve, par exemple, pour l'AME, l'aide médicale assistée d'État. Mille fois, il a été prouvé que si on soignait pas les réfugiés, les épidémies coûteraient hyper cher à la France. Mais quand t'écoutes les gens de droite, t'as des gens qui traversent la moitié du monde en risquant leur vie pour payer moins cher le Doliprane. Ils sont là, moi, il a vécu des violences inouïes, mais c'était juste pour se faire rembourser son typhus et se faire refaire les seins. Non, il cherche une survie, pas un peeling gratuit à la clinique des Champs-Élysées. Vous savez par contre ce qui coûte vraiment cher à la France? 13 000 millionnaires qui ne paient pas d'impôts. Ça, ça coûte cher à la France. Et moi, je dis, quand t'as mis toute ta fortune dans de l'immobilier, on fait une règle, c'est qu'au bout de 3 châteaux, tu mets dans la canotte litchi. Alors oui, la solidarité s'étiole comme un vieux vitrail dont les couleurs autrefois flamboyantes se dissolvent sous la laine tiède du renoncement collectif. Ça, c'est juste au cas où, parce que peut-être qu'un jour, il y aura une chronique dans Le Masque et la Plume. Mais faisons cet effort d'âme. Et alors peut-être arriverons-nous à vivre enfin, tous ensemble, comme dans mes rêves de petite fille au Monopoly, dans un hôtel rue de la Paix.
En attendant quel est son hôtel rue de la Paix et moi, mon troisième château, eh bien, vous pouvez aller, si vous n'êtes pas trop loin, voir le spectacle de Mao, drama, au Fémina, à Bordeaux, dans 10 jours, le 13 mars prochain. Merci Mao pour cette semaine.
La grande matinale sur France Inter.
Alix Van P, c'est à vous, vous nous présentez une nouvelle tête.
Et oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans Nouvelle Tête. La nouvelle tête du jour est une actrice bien discrète jusqu'à présent. Sur Internet, peu d'informations sur elle, mais tout ça risque de changer. Car dans Les Rayons et les Ombres, le film de Xavier Giannoli qui sortira le 18 mars, elle crève l'écran. Bonjour Nastia Golubeva.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci surtout d'avoir laissé tomber votre première vocation, travailler avec les animaux. On adore les animaux, mais vous êtes vraiment à votre place au cinéma, milieu dans lequel vous baignez depuis votre enfance. On vous a vu dans Annette ou encore dans Revoir Paris d'Alice Winocourt. Mais place à votre grand rôle dans Les Rayons et les Ombres. Le public vous découvrira en Corinne Luchère, une jeune actrice qui a vraiment existé. Elle était fille d'un collabo, Jean Luchère, incarné dans le film par Jean Dujardin. Alors, dans plusieurs scènes de ce film, vous avez un regard, mais magnétique, un regard que j'ai trouvé de feu et de glace. Vous le travaillez ce regard, ou alors c'est naturel?
Non, c'est parce que le chef opérateur Christophe Bocarne s'est bien filmé et Xavier bien donné les idées.
Donc c'est naturel.
Et que vous avez de grands yeux verts.
Et que vous avez de grands yeux bleus qui nous fixent en ce moment en studio.
Et la lumière, évidemment.
Bien sûr, qui est très belle dans ce film. Alors, vous êtes une actrice qui joue une actrice dont on voit l'ascension et puis le destin complètement fracassé. Est-ce que c'est perturbant de jouer un tel rôle en début de carrière comme vous?
J'y ai pas du tout pensé quand je l'ai fait. J'ai plus pensé au fait que ce rôle était très dense et qu'il y avait une grande évolution. De ses 17 à ses 28 ans, qu'elle passe par 4 périodes très différentes. Mais oui, en tout cas, être une actrice connue dans les années 40, c'est quelque chose. Très différent d'aujourd'hui.
Et alors, comment est-ce qu'on prépare un tel rôle? Parce que, comme vous le disiez, c'est une femme qui a été tour à tour une immense star. Ensuite, elle a été très malade, elle a été ensuite rejetée. Donc voilà, comme vous disiez, il y a plein de phases de vie. Comment on prépare un rôle aussi dense?
Il y a du travail. Moi, j'ai personnellement rencontré une coach qui s'appelle Dany Héricourt et qui m'a fait travailler sur le corps, c'est-à-dire que déjà sur un travail sur le scénario, chaque changement intérieur du personnage, on surligne d'une couleur différente. Et le travail physique, c'est-à-dire que je marchais dans une pièce et elle me disait, là, tu es Corinne à 17 ans. Là, tu es Corinne Star. Là, tu es Corinne Malade. Là, voilà. Et on travaillait comme ça.
À être 1000 personnes à la fois. Alors, on sait peu de choses sur vous. Si ce n'est qu'à 21 ans, vous semblez très loin des réseaux sociaux. Vous lisez du Dostoïevski et vous écoutez ça.
Pas de quai, pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen.
J'adore, moi aussi. Göttingen de Barbara. Vous êtes sûre d'être née dans la bonne époque?
Bah oui, il y a aussi des très belles choses dans cette époque, enfin. Pas trop en ce moment, mais c'est pour, d'ailleurs pour ça que j'ai parlé de cette chanson, parce que dedans, je l'ai écoutée hier, et dedans, elle parle des enfants blonds de Göttingen qui, à Göttingen ou à Paris, sont les mêmes enfants, et qu'elle espère qu'il n'y aura plus de guerre. Et donc ça m'a fait penser à aujourd'hui.
Notre époque, c'est aussi l'époque, oui, d'Internet, des réseaux sociaux. Vous me disiez tout à l'heure que vous rêveriez de changer de téléphone et d'avoir un téléphone ancien pour ne pas aller sur Internet.
Bah oui, sinon c'est trop facile. Et évidemment, quand c'est facile, on y va parce que on n'est pas faible, c'est pas le mot, mais on aime bien être efficace. Et c'est vrai que j'ai envie de me battre contre ça.
Mais oui, soyons inefficaces tous ensemble. Alors j'aimerais bien qu'on écoute un extrait de film que vous allez reconnaître tout de suite.
Bien, Nastia, ça va commencer.
1, 2, 3, 4.
Extrait d'Annette, réalisé par votre père Léo Scarax, réalisateur esthète, l'un des plus mystérieux du cinéma français. Dans la scène qu'on vient d'entendre, vous jouez à ses côtés dans un studio de musique. Quel souvenir vous gardez de ce moment, père-fille ?
Je joue pas, j'apparais.
Oui, bon, si, il y a quand même, oui, vous venez, non. Vous êtes derrière lui, une petite apparition. Mais c'était un moment, père-fille.
J'étais extrêmement timide, et ça se voit d'ailleurs, moi, quand je n'arrive pas à regarder ce moment parce que je vois que ma tentative de sourire qui est nulle.
Non, ce n'est pas nul. Bah,
non, mais bon.
Comment c'était de vivre avec un père réalisateur ? Est-ce que par des formations professionnelles, par exemple, il vous filmait lorsque vous étiez enfant ? Il avait toujours une caméra à la main ?
Non, bah, d'ailleurs, il avait son petit Nokia dont je vous parlais tout à l'heure avec les petites caméras pixelisées. Oui, enfin, comme des parents prennent en photo leurs enfants quand ils grandissent.
Vos deux parents, parce que votre mère était donc une actrice, Katerina Golubeva, ils avaient des goûts pointus au cinéma. Est-ce que vous pouviez quand même, quand vous étiez petite, regarder des télécrochets ou alors des dessins animés débiles ou c'était interdit à la maison ?
Ma mère n'avait pas des goûts très pointus au cinéma. Et j'ai regardé des daubes étant petite. Et j'ai notamment regardé Gremlins. Qui n'est pas une daube
non,
en son genre du tout.
C'est un film culte.
Oui, mais je l'ai vu à 2 ans et il m'a traumatisée jusqu'à mes 10 ans parce que ma mère m'avait montré ça.
À 2 ans ?
À 2 ans, oui.
À 2 ans,
terrible.
Le nounours qui devient un monstre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
Heureusement qu'il y avait Dostoïevski après pour aller mieux. Alors, c'est l'heure de votre carte blanche. Vous avez choisi de nous lire un poème en musique. On vous écoute.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant, sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor, dans le grand méridien où s'inscrit son essor. Ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Merci beaucoup pour ce moment en apesanteur.
Qui n'est pas une lecture.
Qui n'est pas une lecture, qui est une interprétation. Merci beaucoup, Nastia Golubeva, d'être venue ce matin. Quel plaisir de vous avoir. C'est la première fois que vous étiez en live à la radio. Je rappelle que vous jouez avec Jean Dujardin dans Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli en salle le 18 mars. Vous y incarnez une étoile montante du cinéma avec tellement de subtilité, vraiment. On va entendre parler de vous ces prochaines années. Merci encore d'être venu.
Voilà.
Merci.
Xavier Giannoli et Jean Dujardin seront les invités du 8h20 de France Inter mardi prochain. Tous les auditeurs sont invités à pouvoir leur poser des questions. À mon avis, Gremlins, pas avant 7-8 ans. Allez, c'est la fin du MAC de la grande matinale.